Je suis rentré dans l'enseignement il y a très longtemps de ça, je n'entends parler que de ça. Le jeûnisme, il faut faire plaisir aux jeunes. Il faut faire jeune. Plus d'une fois, le ministre de l'Éducation, excusez-moi, je parle de mon métier, je parle de ce dont j'entends parler, a pris des mesures concernant l'école, pas pour que l'école fonctionne mieux, non, mais pour se mettre les jeunes dans la poche en faisant ce qui est mauvais pour eux, au lieu de les mettre devant leur réalité. Ecclésiaste 10, 16, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Lorsqu'on fait passer, ça m'énerve au plus haut point, lorsqu'on voit à la télévision des reportages sur l'école. C'est bien, les jeunes ils sont contents. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Les mesures ont été prises pour se mettre les jeunes dans la poche, pas pour que l'école fonctionne mieux. Et il en est de même dans pas mal de domaines. Le monde échoue parce que le monde veut flatter notamment les jeunes, veut flatter et pas mettre nos jeunes devant leurs responsabilités. Ceux qui râlent ont raison sur le court terme, mais ils ne se confient pas en Dieu. Mes voix ne sont pas vos voix. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'on le trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Les voix du monde ne sont pas celles de Dieu. Ce que veut le monde n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu, chapitre 5. Est-ce que nous nous plaçons de ce côté-là ou ailleurs? Quels moyens mettons-nous en œuvre? Verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Alors que le verset 19 dit que le Dieu dans lequel nous croyons veut arracher notre âme à la mort et nous faire vivre au milieu de la crise au milieu de la famine. Verset, psaume 33, verset 19. Dans tout ce fatras de mauvaises nouvelles, de confusion, il y a des fausses pistes. L'une de ces fausses pistes, c'est sacraliser ce qui se fait, les grandes réalisations. N'est-ce pas? Bon, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les grandes réalisations qui se sont cassées la figure, de tous les Titanics qui ont coulé au premier voyage. Je ne vais pas vous en faire la liste de toutes les tours qui se sont écroulées parce que le monde vit dans la confusion, parce que le monde prend de mauvaises décisions. On a ça dans la Bible. Matthieu, chapitre 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Chaque fois que nous voyons une grande réalisation, pensons à Jésus qui a parlé devant le temple. Il ne restera pas pierre sur pierre. Il y a des choses qui paraissent couler dans le béton, couler dans l'éternité et qui, en fait, ne dureront pas. Tous ceux qui ont plus de 50 ans se souviennent de la chute de l'Union soviétique. C'était le type même de ceux qui étaient, mais vraiment, les jeunes, vous n'avez pas vécu ça, mais croyez-moi sur parole, ça paraissait être indestructible. C'était la dictature, on disait, c'est une dictature qui n'est pas biodégradable. Voilà, c'était l'expression utilisée. C'est la dictature qui n'est pas biodégradable. Hitler a été vaincu, Franco est mort, Mussolini aussi, etc. Mais la dictature de l'Union soviétique, c'était ça ne bougera jamais. Et puis ça s'est écroulé un beau jour de 1989, très rapidement. Très rapidement. Il n'y a rien sur la Terre qui ne soit destiné à être renversé. Se confier en l'homme dans la Bible, c'est également quelque chose que la Bible désapprouve, que la parole de Dieu désapprouve. Jérémie 17,5. Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit pas arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Une autre fausse piste, c'est lutter contre la chair et le sang. Même les disciples ont pris ce chemin-là. Lequel de nous est le plus grand, ont-ils demandé un jour. Marc 9, 33. Marc 9, 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la nation, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela le... Il prit un petit enfant, les plaça au milieu d'eux, et il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants le reçoit moi-même. » Il y a une fausse piste aussi qui mérite d'être relevée, et notamment les jours d'élection, on s'en approche, hein. On va y être bientôt, on va avoir 4 dimanches d'élection bientôt, hein, si toutes les choses se passent normalement. C'est les gens qui, les jours de vote, disent « je ne vais pas voter, ils sont tous pourris ». Combien de fois on n'entend pas ça ? Je ne vais pas voter, ils sont tous pourris. Même parfois dans les églises, on entend ça. Je ne vais pas voter, ils sont tous pourris. Question. Est-ce que si je dis « je ne vais pas voter, ils sont tous pourris », j'accomplis la volonté de mon Père qui est dans les cieux ? Est-ce que j'accomplis la volonté de celui qui a dit « travaillez pour le bien de la ville où vous avez été exilé » ? Est-ce que j'accomplis le bien de la ville ? Est-ce que j'accomplis la volonté de celui qui a dit « Priez pour les autorités pour que vous ayez une vie tranquille et heureuse » ? Est-ce que je fais cela ? La Bible dit que la langue, ce qui est dit, ce qui sort de notre bouche, a des conséquences. En disant cela, nous rendons hommage à qui ? Est-ce que nous rendons hommage au Dieu de la lumière, au Dieu qui veut que tout soit correct, au Dieu qui veut que nous soyons heureux, que nous marchions droit, ou est-ce que nous rendons hommage au Père du mensonge ? Les hommes politiques ne sont pas toujours des enfants de cœur, ça, c'est une affaire entendue. Mais est-ce que, en soulignant ça, et ça avant tout, nous faisons la volonté de Dieu ? Ce que nous disons a des conséquences. Jacques, verset 3, chapitre 3, verset 7. Toutes les espèces d'animaux ont été domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, car elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. En disant tous pourris, nous risquons de louer non pas le Seigneur de la vie, mais l'adversaire de nos âmes. Nous lui confirmons, tu tiens le monde entier dans tes mains. Question, est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Inutile de donner la réponse. Voilà ce que j'avais à cœur de dire, notamment sur cette question de tous pourris. Le Seigneur ne nous demande pas cela. Le Seigneur nous demande de faire sa volonté. Le Seigneur nous demande de faire la volonté, et notamment lorsqu'il est question justement des hommes politiques qui ne sont pas toujours très honnêtes, qui ne marchent pas toujours très droit. Il est écrit 4 fois dans les évangiles. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. C'est notre foi. C'est écrit à 4 reprises. Tout ce que vous direz, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera murmuré, toutes les petites vacheries qui seront dites, toutes les petites fourberies seront criées sur les toits. C'est notre foi. Notre foi, c'est dans ce jour où tout sera crié sur les toits. Et comme il est écrit dans l'Apocalypse, certains ce jour-là crieront « Montagne tombée sur nous ». Alors, nous n'avons pas besoin de nous occuper de savoir si tel ou tel ennui judiciaire de telle ou telle personne a été le fruit de la malchance ou le fruit d'un complot. On n'a pas besoin de s'intéresser à ça. Un jour, tout cela sera crié sur les toits. Continuez à y penser, ce n'est que de la perte de temps. Une des choses que Dieu attend de nous également dans les circonstances actuelles, c'est que l'on crie à lui. Vous savez ce que c'est qu'une concordance biblique, n'est-ce pas ? Dans ma concordance biblique, j'ai regardé combien de fois il y a crié à Dieu. J'ai renoncé à compter. D'ailleurs, ce qu'il y a dans ma concordance biblique, si ça se trouve, ce n'est pas complet. Mais il y en a au moins une trentaine de fois. Une trentaine de fois, il est question de crier à Dieu. Et c'est toujours suivi des faits. Dieu a entendu. Sauf psaume 22. Qu'est-ce qui se passe dans le psaume 22 ? Ce sont les paroles du Christ sur la croix. Lorsque le Christ était sur la croix, Dieu n'a pas écouté, Dieu n'a pas entendu. Il y a une coupure entre Jésus qui personnifiait le péché et le Père qui ne peut pas tolérer le péché. Et la deuxième fois que quelqu'un a crié à Dieu sans effet, ça a été Job. Là aussi, c'était voulu par Dieu et contrôlé par Dieu. Le reste du temps, Dieu a entendu, Dieu a réagi. Est-ce que je crois dans la malédiction, ils sont tous pourris ? Ou est-ce que je crois que si je crie à Dieu, cela sera suivi des faits ? Nous ne devons pas avoir de faux prétextes. Nous avons le droit de crier à Dieu. Et peu importe si celui qui crie à Dieu est quelqu'un d'important ou pas, quelqu'un qui a été à l'école ou pas, quelqu'un qui est riche ou pauvre, quelqu'un qui est puissant ou misérable. Il est écrit, Ecclésiaste 9, 14, « Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein, un roi puissant marchant sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Oui, il suffit parfois qu'une seule personne intervienne. Et il nous est demandé de ne pas faire de complexe là-dessus. Il suffit souvent qu'une seule personne, au milieu de beaucoup d'autres, interviennent. Et puis on s'aperçoit brusquement que les autres se taisaient, mais qu'ils étaient d'accord avec celui qui est intervenu. Il y a très longtemps de ça, je venais d'arriver à Hénin-Beaumont, oui, je vous parle il y a très longtemps, nous étions une réunion de... Nous étions une dizaine de jeunes professeurs rassemblés un dimanche après-midi, et puis l'un d'entre nous, pas moi, hein, l'un d'entre nous a proposé qu'on fasse tourner les tables. Moi, j'étais athée en ce temps-là. L'un d'entre nous a proposé ça. Ça commençait à se... Ma foi, il semblait que ça allait se faire. Et puis, il y a une d'entre nous qui est intervenue. Si vous faites ça, moi, je m'en vais. Une seule personne. ça ne s'est pas fait. Au fait, vous savez le nom de cette demoiselle ? Violette Lénard, oui. Une autre fois, c'était sur le bateau, nous étions en sortie scolaire en Angleterre. La majorité était à 21 ans et les gamins, les lycéens que je convoyais, se lorgnaient sur le bar du bateau à 7 heures du matin. Ils voulaient s'enfiler des whisky. Hein, vous avez de l'expérience, là, les adultes, là. Hein, ils voulaient s'enfiler des whisky. Évidemment, c'est moins cher sur le bateau. Hein, il n'y a pas de droit de douane. À 7 heures du matin, il y a un petit professeur qui ne payait pas de mine, qui avait 25 ans, un accent du midi comme c'est pas permis, qui s'est avancé vers le bar et qui a dit au barman, il a posé une petite question, c'est tout. Et le gars n'en est pas revenu. Le barman, il a renoncé à servir ses whisky. Il a suffi d'une seule personne. N'ayons pas de complexe devant le mal. N'ayons pas de complexe. Quand Jean-Michel a prêché ce message, le même sujet, il a dit, et c'est vrai, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Quelquefois, il y a une personne qui n'est pas d'accord, puis deux, puis trois, et puis ça finit par faire beaucoup. Mais il arrive souvent qu'une seule personne qui n'est pas d'accord remporte la partie. Pourquoi ? Parce que une seule personne sur plusieurs dizaines, ça vaut ce que ça vaut au niveau arithmétique. 1 sur 10, ça fait 0,1, ça fait pas beaucoup, ça fait 10%. 1 sur 100, ça fait encore moins. Mais au-delà de la valeur arithmétique, il y a la valeur spirituelle. Et si ce qui est fait au nom de Dieu, alors Dieu peut bénir, Dieu peut faire que l'intervention ait davantage de fruits que que sa valeur arithmétique. Ça a été dit un jour, nous étions en formation sur l'offrande. Et le formateur nous a dit, ce que vous mettez dans la corbeille, ça vaut ce que ça vaut. Si vous avez mis 1 euro, eh bien, il y a 1 euro. Le trésorier sait qu'il peut compter sur 1 euro de plus, entre autres. Mais il y a aussi une valeur spirituelle. Et ça, c'est totalement différent. Il en est de même le jour où nous voyons quelque chose qui ne va pas et que nous prenons position. Il nous appartient aussi de mettre à sa vraie place l'hostilité des hommes sans Dieu. 1 Jean 3. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous déteste. C'est parfaitement normal. 1 Pierre 4, 3, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, etc. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Nous sommes très souvent des gens qui avons commencé notre vie en faisant un certain nombre de bêtises. Nous sommes des gens qui, un jour, avons tourné. Nous sommes des prisonniers évadés, pour ainsi dire. Dans certains cas, c'était grave, ça a été jusqu'à la drogue, la prison. Dans d'autres cas, moins. Mais nous sommes des gens qui avons quelquefois eu, pas trop longtemps, j'espère, une mauvaise vie. Alors, ceux qui ont vu ça ne sont pas contents. Ils s'étonnent et ils trouvent étrange que vous ayez tourné de bord et ils vous calomnient. Il nous appartient enfin au quotidien, devant toute la crise, devant toutes les raisons de se plaindre, de 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Nous ne sommes pas là pour faire du souci sur tout et n'importe quoi. Nous ne sommes pas là pour passer des heures d'insomnie à se dire ça va mal. Nous ne sommes pas là pour rendre hommage à l'adversaire de nos âmes, à celui qui maintient notre pays dans la confusion. Déchargez-vous sur lui de tous vos sourcils, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Nous sommes là aussi pour vivre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Le Saint-Esprit est quelque chose que nous devons demander et remettre en œuvre régulièrement. 1 Corinthiens 2, 6. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses qui ne se comptent pas. Ce sont des choses qui ne relèvent pas seulement de l'arithmétique. Lorsque nous intervenons, si nous intervenons par le Saint-Esprit, alors beaucoup de choses deviennent possibles. Je rappelle également Matthieu 24, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera, celui qui ne s'arrêtera pas, celui qui continuera, celui qui lira sa Bible tous les jours, pardonnez-moi de vous rappeler des choses évidentes que je rappelle chaque fois qu'il m'est donné de parler ici. Colossiens 3, 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Il nous appartient quelques semaines et peut-être davantage de crises politiques, de problèmes, de mauvaises nouvelles dans les journaux ou sur Internet. Il nous appartient de vivre cela en ne perdant pas de vue celui qui nous propose d'être notre guide. Je reviens pour finir sur le psaume 33. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce ne sont pas des moyens matériels qui sauvent le roi. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Seigneur, nous espérons en ta bonté et nous ne regardons pas les chiffres des sondages. Nous ne regardons pas les chiffres des indicateurs économiques. Nous espérons en ta bonté. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Il met en lui sa joie. Ah, je vois quelques sourires quand même, oui. D'accord. Et les autres ? Nous mettons en lui notre joie. Nous avons confiance en son saint nom. Amen.
Merci, Hugues. C'est le moment maintenant où nous allons prendre la Sainte Cène. Je réfléchis toujours au moment où je vais présider la Sainte Cène, à ce que je vais dire, parce que la Sainte Cène, c'est toujours un moment qui est un petit peu solennel dans le culte. Chez les catholiques, ça a pris une dimension vraiment extrême. Bon, on a quelquefois tendance aussi à critiquer un petit peu ce que font les catholiques. Mais je pense qu'il y a un moment quand même dans le culte où il faut quand même être sérieux. Il y a un moment de solennité. Il y a un passage que vous connaissez dans Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Ouzias, j'ai vu le Seigneur, c'est le prophète Ésaïe qui parle, assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes dont ils se couvraient le visage, et 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler, et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers ». Sa gloire remplit toute la terre, Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. » On s'imagine à quel point Ésaïe a été impressionné par la vision qu'il a eue. Alors, la réaction de Ésaïe, ça a été laquelle ? « J'ai dit, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. » Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Il y a un moment solennel où on se rend compte qu'on est en présence du Dieu Tout-Puissant. Quelquefois dans les églises évangéliques, et qu'on a toujours tendance un petit peu aussi à considérer Jésus comme notre copain. Jésus est notre Dieu, mais il est notre Seigneur, il n'est pas notre copain. Il y a un moment quand même où il faut réaliser que Dieu est Dieu. Et Ésaïe a réalisé qui il était. Qui suis-je ? Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître notre état. Si je reconnais mon état, je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que si le pardon m'est accordé, c'est simplement une grâce de Dieu. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, dit Ésaïe, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Je pense que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Dans le culte, il y a un moment solennel où on se doit se poser la question. Est-ce que je suis à ma place ? Si je pense que j'y ai droit parce que j'estime que je me suis bien conduit, alors je suis complètement dans l'erreur. Il faut que je dise la même chose qu'Ésaïe. Mes lèvres sont impures et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors qui es-tu, toi, pour te prétendre pur ? Mais si tu reconnais ça, alors l'ange va chercher des braises et vient les mettre sur tes lèvres et te dit que ton péché est pardonné. Si tu comprends ça, alors tu peux venir. Si tu ne comprends pas ça, tu es un prétentieux. La Bible dit qu'elle élève les humbles, mais qu'elle abaisse les orgueilleux. Si tu penses que tu es digne de prendre la Sainte Cène, ben tu te trompes. Mais si tu as reconnu que tu étais pécheur, que tu as reconnu que tu avais besoin de Jésus pour être pardonné, alors Jésus, Dieu, ordonne à l'ange d'aller chercher la braise et le met sur tes lèvres pour te dire que tu es pardonné. Seigneur, dans la nuit où tu as été livré, après avoir rendu grâce, tu as pris du pain. Tu l'as rompu et tu as dit, ceci est mon corps brisé pour moi. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe, il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous mangez de ce pain, chaque fois que vous buvez de ce coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est un moment solennel dans le culte, le moment où je dois m'examiner. Est-ce que, bien sûr, si je pense que je dois être sans péché pour venir, alors personne d'entre vous ne viendra jamais. Mais je dois réaliser que je suis pécheur. Je dois réaliser que si je peux venir quand même, c'est parce que Jésus et lui seul a fait ce qu'il fallait pour ça. Il a accepté de mourir sur une croix pour que je sois pardonné. C'est parce que je sais.
si vous savez ces choses. Amen. Laurent, tu peux. Et puis. Christophe. Seigneur, je te loue pour la communion parfaite. Seigneur, nous venons devant toi tel que nous sommes. Sans prétention. C'est sans rien d'autre que le sang qui est versé pour moi. Mais Seigneur, je te loue et je te bénis, parce que ce sang qui a coulé me purifie. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Amen. Ce matin, combien cela est vrai. Permets, Seigneur, que personne d'entre nous ne perde l'espoir. Nous vivons quelquefois des situations difficiles, les uns les autres ont des attentes, des espérances. Mais toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu nous aimes, tu nous le montres. Tu le montres chaque jour. Pourvu que nous soyons capables d'entendre ta voix. Seigneur, redonne de la vigueur à celui qui t'affaiblit. Redonne de l'espoir à celui qui a été perturbé par l'adversaire. Redonne, Seigneur, la santé à ceux qui sont malades. Seigneur, apprends-nous à nous confier en toi. Seigneur, nous tendons les mains à toi. Nous nous attendons au Dieu Tout-Puissant. Nous nous attendons à celui qui guérit. Seigneur, tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour annoncer la guérison à ceux qui sont malades. Pour annoncer la délivrance à ceux qui sont captifs. Seigneur, c'est cet esprit que nous voulons aussi accueillir. vient, esprit du Dieu vivant, soit le maître en moi, soit le maître en nous. Ne permets pas que nous fléchissions au genou devant l'adversaire. L'adversaire a été vaincu. Définitivement sur la croix. Tu as triomphé de lui, Seigneur. Seigneur, c'est toi que nous voulons servir. C'est toi que nous voulons honorer. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais que quelquefois il nous arrive de nous tromper. Mais Seigneur, si nous nous confions en toi, tu viens nous rechercher. Parce que tu es le bon berger. Tu es le berger de celui qui se soucie de la brebis qui s'égare. Seigneur, je te loue et je te bénis. Amen.
Merci Seigneur pour ce que tu fais encore grâce. Tu fais grâce pour ce pays, pour notre ville. Tu fais grâce pour notre famille, pour nos voisins. Merci Seigneur pour cette grâce abondante. Et que Seigneur, tu as une patience, une fidélité. Et que tu veux sauver le plus grand nombre. Et nous te remercions Seigneur. Nous te bénissons pour cette ville aussi. Merci de nous tenir dans ta main et de veiller sur ce que tu veux accomplir au travers de nous, au travers de ce que nous voulons, au travers de l'Église. Merci pour l'Église qui tient bon encore, malgré notre grand nombre. Alors nous te louons aussi, parce que nous savons que c'est encore toi qui es le Seigneur et qui tient tout dans ta main.
Et puis merci Seigneur parce qu'il y a aussi de bonnes nouvelles dans notre pays. J'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure. Merci parce que les vieillards ne sont pas si mal soignés que ça, même si ce n'est pas parfait. Nous avons pu le constater avec Voidec, nous avons pu le constater avec Anne-Marie Fontaine, nous pouvons le constater avec Jean Lénard. Merci pour cela Seigneur et merci pour toutes choses. Amen.
Seigneur, merci parce que malgré la confusion qui nous entoure, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Seigneur, tu nous demandes de prier pour nos autorités, Seigneur, pour les choses qui vont se produire ces semaines à venir, Seigneur. Aide-nous à voter pour le moins mauvais, Seigneur. Un candidat qui sera plus près de tes principes, de ta parole, Seigneur. Dirige toutes choses, Seigneur, pour ta gloire, afin que nous puissions vivre en paix en France, Seigneur.
Je veux te remercier, Seigneur, pour le message qui nous a été donné ce matin, Seigneur. Parce que au moment où nous célébrons cette scène, Seigneur, à ce moment où nous pensons à toi sur la croix, Seigneur, il nous a été rappelé que toi aussi, sur la croix, tu as été au moment de désespoir, Seigneur. Toi aussi, tu t'es tourné vers ton Père en attendant une réponse, Seigneur. Et Seigneur, merci de nous avoir rappelé que c'est arrivé deux fois ou trois fois dans la Bible et qu'à chaque fois, c'était ta volonté de ne pas répondre, Seigneur, mais que tu t'es toujours engagé à répondre. Merci Père pour ce message d'espoir. Amen.
J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il entend mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'environnent. Les angoisses du séjour des morts s'emparent de moi. Je suis accablé par la détresse et la douleur, mais je fais appel au nom de Dieu. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce et il est juste. Il est rempli de compassion. Il garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Je veux marcher devant l'Éternel au pays des vivants. Même quand je disais, je suis plongé dans le malheur, j'avais confiance. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de mon Dieu. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce que tu es un Dieu qui parle aujourd'hui, parce que tu es un Dieu qui répond à la prière de ceux qui sont dans la souffrance et le désarroi. L'Éternel entend ma voix. Il entend mes supplications. Comment rendrai-je mes bienfaits envers lui? Ses bienfaits envers lui. J'ai livré la coupe de la souffrance. Notre Père,
Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.
Bon dimanche.
J'aimerais vous partager un petit témoignage de 2 secondes. Cette semaine, bon, vous savez que je fais des études, et dans mes études, il faut que j'apprenne 2 versets par cœur, par semaine. Et seulement, cette semaine, j'ai tellement été plein de travail, j'ai pas eu le temps d'apprendre mes 2 versets. Mais entre-temps, j'ai bien allé sur Internet, j'ai regardé sur Top Chrétien, les choses qui se passent, les témoignages des frères, des sœurs, et en ce moment, il y a une formation sur le Top Chrétien qui raconte comment le Top Chrétien est né. Comment il a été fondé, avec Eric Sellerier. Donc il y a cette formation qui dure 13 jours, puis il explique plein de choses. Et dans le jour numéro 4, il y a quelqu'un, je crois que c'était la trésorière, qui expliquait un petit peu comment elle est venue au ministère de la trésorerie pour le Top Chrétien, et elle donnait des versets bibliques. Et il y a un moment, elle donne ce verset biblique, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Un petit peu ce qu'on vient de prier aujourd'hui. Alors j'étais vraiment c'est vraiment un beau verset, Seigneur. Et puis, c'est vrai, j'ai pas appris mes versets cette semaine. Faut que je prenne les versets de la semaine. Et vous savez, c'était quoi le verset de la semaine? C'était exactement le même verset que je venais d'entendre. Il n'y a pas de hasard. Encore aujourd'hui, Jean-Michel, il nous parle entre le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses nous seront données en plus.
Amen.
Amen. Amen.
Bon dimanche à tous.
Ça va aller loin. Tu sais, vous savez, les votre vie,
avec quelqu'un peut-être, mais toute seule.
Non, pas toute seule.